Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici donc ce soir dans nos lectures en liberté pour la suite du texte de Alain Emery, Passage des mélancolies. Et si vous le voulez bien, cette semaine, nous accompagnerons ce texte par quelques chansons du répertoire de Juliette Gréco, qui vient de nous quitter. Passage des mélancolies, Alain Emery. Elle apprend la couture, les points de bâti, de piqûres, d'ourlets, de la bouche d'une Irène impassible, qui ne remarque pas davantage le désarroi de sa fille que sa propre insignifiance, et ne met bientôt plus le nez dehors que pour raser les murs. C'est un coup à devenir sauvage. Heureusement, il y a l'oncle Armand. Lui, je l'ai vu sous toutes les coutures. Au domicile de Suzy, je n'ai eu aucun mal à dénicher des dizaines de clichés du Lascar. À son avantage, toujours, tiré à quatre épingles dans la flanelle ou l'alpaga. Sans cesse en mouvement, insaisissable. Disons-le, bel homme. Suzy voyait en lui, ses carnets l'attestent, l'improbable mélange du liquide et du feu. En quelque sorte, le vif argent. Derrière les traits fins, impavides, ceux d'un homme qui a depuis bien longtemps mesuré ses chances et demeure sans la moindre illusion, il y a bien sûr tout ce qu'on ne voit pas. L'indicible. Dans quel étrange limon ses veines tracent-elles leur route ? Mystère. Ce n'est en revanche un secret pour personne. Son sang, qui devrait être calqué sur celui de ses frères, arrache à la gangue qui l'entoure des épices exotiques, étrangères aux siens. Le goût du risque, l'insolence, la fantaisie, le courage, et j'en passe. Il suffit du reste d'observer un instant le plus quelconque des clichés où il apparaît. Au-delà de l'éternité qui nous sépare, il continue de vivre. Dans l'œil, cette pincée de poudre à fusil en dit long, et ce sourire en coin, qui a dû en agacer plus d'un tant il est difficile à interpréter, persiste à nous défier. On croirait qu'il vient de sauver des enfants d'un brasier, et on pressent qu'il se fout de Dieu. Dans ses courriers, il s'obstinera à lui refuser une majuscule, comme de ce qu'on peut bien penser de lui. Ce qui explique qu'il soit à ce point différent de ses frères, je n'en sais rien. Ils ont tous été pondus coup sur coup, à tout juste un an d'intervalle, conçus sans aucun doute dans un lit au-dessus duquel veillait le petit Jésus. Peu de chance que sa mère ait fauté, qu'elle ait coupé sa propre chair avec celle d'un aventurier. Avec qui aurait-elle pu, d'ailleurs, quand tous les hommes valides de Saint-Vé se partageaient entre la crainte et la rudesse. En remontant le fil des générations, peut-être finirions-nous par tomber nez à nez avec un héros d'Austerlitz, un hussard chamarré enroulé de la tête aux pieds dans le plus étincelant des panaches. Ce n'est pas gagné si on songe au mépris d'Armand pour la chose militaire. La preuve, c'est qu'il passe au travers de la guerre de 14. De la boue, semblable à celle dans laquelle patauge d'est en ouest ses camarades, cette boue saturée de sang et d'acier, il sort indemne. Aucune blessure, pas la moindre égratignure. Sur le théâtre des opérations, qu'on appelle peut-être ainsi parce que s'y joue autant de tragédie que de comédie, Armand s'efforce de ne pas briller. La mort raffole de la lumière, lui, se fond dans le décor, se débrouille comme il peut. Quand il se penche sur Suzy au printemps 1920, c'est déjà un monsieur. À peine les armes déposées et le paquetage jeté par-dessus l'épaule, Armand s'est lancé dans le négoce. La ferraille. Il avait sur lui tout l'attirail, l'assurance, le bagout, la fougue. Il ne roule pas sur l'or en ce mois de juin, mais au volant désormais d'une De Dion Bouton flambant neuve, il porte l'étoffe taillée sur mesure, fume des barreaux de chaises. Au pays, il ne revient qu'à l'occasion, une ou deux fois par an. Sans doute à contre-cœur. Il habite Paname, désormais, à un hôtel particulier, dans le 14e arrondissement, à deux pas du parc Montsouris. Il brasse de l'argent, beaucoup trop, selon ses frères, et mène la grande vie. Il se murmure sous le manteau qu'il brûle la chandelle par les deux bouts. Il n'en a cure. Il sait de quelle ornière il sort et n'attache pas la moindre importance à ce qui s'y raconte. Mais pourquoi s'intéresse-t-il plus à Suzy qu'à un autre de ses neveux et nièces? Que lui trouve-t-il de singulier? Là-dessus, j'ai ma petite idée. Armand, toute son histoire le prouve, est un homme à femme. Dans les soirées mondaines, folles et débridées depuis que la paix est revenue, il s'affiche avec des créatures toutes plus inaccessibles les unes que les autres. Il n'a pas de mérite. D'instinct, il connaît les cadastres de l'âme, les territoires inviolables où chacune dissimule ses abandons et ses failles. Il entend bien au-delà des simples battements du cœur la musique secrète dont elle s'enivre. Il ne leur veut aucun mal. Rien de mieux pour faire mouche. Suzy, je parie qu'il lui aura suffi d'un seul regard pour comprendre que la gamine qu'il a connue est devenue à 17 ans une femme sur le point de se perdre. Que ne ferait-elle pas pour échapper à tout ce qui la menace, les sacristies et les hommes pleins jusqu'à la gueule de foutre et de certitude? Chaque battement de paupières, elle convoque au creuset de ses iris de lourds drapés mauves qui sont comme des appels à l'aide. Cet homme-là est plein de cordes sensibles. Aussi se propose-t-il, sur un coup de tête, de l'emmener à Paris. Il a pour la gamine, annonce-t-il, un emploi de petite main chez un couturier de sa connaissance. Irène et Louis acceptent sans hésiter. Pour des gens de cette espèce, qui s'imaginent qu'épouser un notaire, un toubib, un directeur de vente, que sais-je encore, est le fin du fin, la capitale est une véritable mine d'or. Jolie comme elle est, on se figure qu'elle n'aura aucun mal à mettre le grappin sur un notable. Sous la robe que lui achète sa mère pour l'occasion, Suzy sent que palpite une chair insolite, pleine d'appétit soudain. On est le 26 juin 1920, un mercredi. À cette date, rien de marquant, si ce n'est l'exploit d'un aviateur français qui signe en cette belle journée pas moins de 962 loopings à la suite. C'est dire si le vent est léger. Combien de fois, Suzy, vous ai-je demandé, supplié, devrais-je dire, de m'accompagner à Paris ? J'ai d'abord pensé que vous preniez mes invitations pour de simples boutades, mais j'en suis vite venu à me demander si vous ne teniez pas avant tout à me tenir éloigné d'une ville qui avait été la vôtre et ne serait jamais la mienne. Voyez comme j'étais. Je croyais que vous me la refusiez. C'était au fond beaucoup plus simple. Cette ville n'était déjà plus qu'un souvenir. Vous y voyagiez seul. Se peut-il qu'elle ait su, en foulant pour la première fois les pavés de Montmartre, que son cœur, jusque-là si rustique, s'emballerait désormais chaque fois qu'elle entendrait souffler un limonaire. Qu'elle frissonnerait en reconnaissant au lointain l'allumeur chaloupée d'un bal de carrefour. Je le pense. Je la vois d'ici, un peu gauche, forcément, étourdie par le faste et l'effervescence. Dans cette houle de canotiers et de chapeaux-cloche, elle apparaît tremblante, comme saisie par le froid, et sa beauté, dont les arêtes sont à 17 ans encore un peu saillantes, s'ouvre en corolle. Au bras d'Armand, qui doit sacrément bicher, elle écume les dancings, s'essaie au foxtrot, au one-step, et file ses premiers bas de soie sur les chaises en osier de la closerie des Lilas. Le sang qui la traverse lui murmure à l'oreille que la vie n'est rien. Tout au plus, une bague de pacotille, un gigantesque éclat de rire, un fruit dont le sucre coule dans le cou de celle qui le croque. Rien du tout, en somme, mais que rien d'autre ne peut, ne doit compter. Elle s'éveille au monde dans des cabarets débraillés et des ateliers de peintres où d'insolents modèles défient les courants d'air et se mesure en faisant glisser l'ongle du pouce le long d'un crayon.
Oui, c'est moi qui lave les verres et les plats. On m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un penny, faut encore que je dise merci. Me blanc en habit d'orteux, au fond de cet hôtel miteux. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Mais un soir, un beau soir grand branle-bas, des gens courent sur la rive, disant « Voyez qui arrive !» Et moi je sourirai pour la première fois. On dira « Voilà que tu souris, toi, un navire de haut bord, sans canon sa bord, entrera dans le port. » Moi toujours, je laverai les verres et les plats. Je serai toujours une Marie, couche-toi là. Quand on me donnera un penny, toujours je dirai merci. Je garderai mes habits loqueteux au fond de cet hôtel miteux. Mais demain, demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis, voilà que les 100 canons s'éveilleront et tonneront. Pour la première fois, j'éclaterai de rire. Quoi méchante, t'as le cœur à rire. Le navire de haut bord, sans canon au sabord, bombardera le port. Alors reviendront à terre des matelots, plus de 100, qui marqueront d'une croix de sang. Chaque maison, chaque porte, et c'est devant moi qu'on apporte, mutilés, implorants, enchaînés et saigneux, vos pareils, tous vos pareils, bons messieurs. Vos pareils, tous vos pareils, bons messieurs. Alors, paraîtra celui que j'attends, il me dira, qui veux-tu, de tous ces gens que je tue. Je répondrai doucement. Tu les tous. À chaque tête qui tombera, je battrai de main. Hop là. Et le navire de haut bord, loin de la ville, quand on sera mort, parait travers la vie.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Alain Emery, Passage des mélancolies. Elle manque de peu Modigliani, qui vient de passer l'arme à gauche, qui l'aurait sublimé nu, couché ou debout. Mais dîne à la table de Sandrars et de Picasso. Sur le bout de sa langue, où se bousculent les mots qu'elle cherche pour dire combien ce qu'elle découvre est fabuleux, elle découvre le Cointreau, le Champagne, les grands crus, le tabac blond. Quand elle s'endort, à l'aube bien souvent, elle laisse chaque fois au pied de son lit, avec ses chaussures en cuir fauve, de nouveaux lambeaux de sa vie d'autrefois. Semblables aux mues qu'abandonnent les serpents, quelques écailles cousues les unes aux autres et dans lesquelles se reflètent pour peu de temps, se dit-elle, les bois et les rivières de son pays. Et comme elle clôt les paupières, tandis qu'en elle ricochent les bruits d'une fête éternelle, elle comprend au bout d'une semaine à peine que son enfance ne sera bientôt plus qu'une nuit noire, une impasse obscure, dans laquelle la jeune femme qu'elle est en train de devenir n'aura plus aucune raison de s'aventurer. Un jour que vous et moi, Suzy, marchions dans l'ombre salée des falaises d'Étretat sur les pas de Monet, que vous aimiez tant, et dont vous disiez qu'en gommant les contours du monde, il le restituait avec précision, j'en suis venu à vous parler des astres, du destin, de tous ces solfèges auxquels certains nous croient liés. Vous avez levé les yeux au ciel avant de réfuter dans un grand éclat de rire l'idée d'une route tracée à l'avance, écrite par la toute-puissance de mains invisibles et dont les lacets et les détours auraient été dessinés bien avant notre naissance, consignés noir sur blanc dans de grands registres sacrés. Dieu vous faisait rire, et vous refusiez l'idée d'un univers obéissant au doigt et à l'œil à son Créateur. Quand je vous ai demandé comment vous, Suzy l'ange, aviez mené votre barque, vous avez tourné vers moi ce regard incroyable où l'espièglerie se mêlait à une grande tendresse, et je me souviens parfaitement de ce que vous m'avez répondu. Qu'on ne demande pas à quelqu'un qui lance les dés pour la première fois comment il s'y est pris pour sortir un double six. Le temps est pareil au ruisseau dont on fouille le lit. S'il se trouble jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien distinguer d'autre que la fureur qui l'anime, il s'apaise tôt ou tard, retrouve sa pureté. Et il arrive alors que surgisse au coin d'une rue un vestige auquel ni les hommes ni les éléments n'ont cru bon de toucher. C'est ainsi qu'on peut encore s'arrêter, place de la Contrescarpe, devant une petite échoppe de tailleurs pour dames, fondée en 1908 par un certain Auguste Charrier, un peu défraîchi, mais fidèle à ce qu'elle était en 1920. Devanture de bronze et d'ébène, feuilles d'acanthe et couronne de laurier sculptées au-dessus de la porte. Le carillon, une pointe de cristal, est d'origine. C'est celui que Suzy entend quand elle pousse la porte de l'établissement 2 semaines après son arrivée à la capitale. Sur qui le rideau s'ouvre-t-il ? 2 hommes. Le maître des lieux d'abord, Albert Charrier, 3e du nom. Dans cette histoire, il ne pèse rien. Pas même son poids en or. Il claque tout ce qu'il gagne dans les boxons et les tripots clandestins. Sur le ton de la plaisanterie, il se plaît à prédire qu'il y laissera sa chemise. « Un comble pour un tailleur », répète-t-il. C'est en fin de compte à sa peau qu'on s'en prend. Quelques jours après Noël 1925, je ne connais pas les détails, mais il semble établi qu'il se soit vidé de son sang dans un caniveau des bas-fonds. L'autre homme de la maison, c'est Maurice. Minou, pour les intimes. Affectueux sobriquet qu'il tient des demoiselles qui lui confient leur silhouette, ces danseuses de revue dont il retouche les tenues et rajuste gaiement les dessous. C'est qu'ici, chez Charrier, on œuvre pour le musical. On coud du brillant au fil des jours, on monte la beauté en épingle, entre les perles et les paillettes, on plante des plumes de casoar, d'argus, de cacatoès et d'oiseaux de paradis. On joue sur le velours des renards argentés, des visons. Dans ses mains, qui ont, dit-on, la douceur de la soie, la vie est une fête. Si je l'ai imaginé bel homme, cravachant nuit et jour un charme voisin des ténèbres, j'ai compris en découvrant sa photo dans un carnet de Suzy combien j'avais fait fausse route. Sans doute m'accorderait-il son pardon. Tout ce que j'avais échafaudé, l'œil en maraude, le sourire en voyou, toute la charpente que j'avais dressée en plein ciel reposait sur sa légende. À présent, je l'ai sous les yeux. Je le vois, tel qu'il était, discret, bonhomme, quelque peu corpulent. Et je ne reconnais pas le lascar dont Suzy dit au dos même du cliché qu'à défaut d'avoir parcouru le globe en long, en large et en travers, il a bouclé son tour du monde dans les bras des plus jolies filles, bataves ou javanaises, duchesses ou filles de peu, mais danseuses, toujours et pour l'éternité. Je lis dans ses yeux clairs, languides, c'est un bienveillant. D'où lui vient ce don de deviner, en effleurant la cheville d'une femme, les chemins qu'emprunteront ses désirs? Je l'ignore. On trouverait peut-être ce secret dans le limon déposé dans ses veines. Je ne me sens pas capable de remonter si loin. Qu'y a-t-il eu entre eux? Rien, que je sache. En cet été 1920, ils passent le plus clair de leur temps côte à côte sous les jupons, s'apprivoisent dans les dentelles et les plumes. Minou se tient sur la réserve, enseigne ses astuces. Je ne dis pas qu'il est insensible aux formes de Suzy, mais il aime les femmes faites, délurées, un peu lestes. Il aime que les portes qu'il force à petits coups d'épaule soient déjà entrouvertes. Il séduit celles qui le sont déjà, par nature. Comme rien ne lui échappe, il sait que Suzy est encore vierge, fine mouche. Il pressent qu'elle ne le restera pas longtemps. La vie exige des passeurs. Des hommes ou des femmes, peu importe, qui, connaissant le guet, vous prêtent leurs mains pour que vous le franchissiez à votre tour. Ce sont comme des pierres blanches, insignifiantes parfois, mais qui balisent la route à suivre et vous rappellent à jamais celle que vous avez quittée. Suzy, ses notes en témoignent, n'a par exemple jamais oublié que c'est au bras de Maurice qu'elle a, pour la première fois, foulé le plancher d'un cabaret de music-hall. Ne vous l'a-t-on jamais dit, Suzy? Nous sommes du sable. Un rien nous disperse. L'émotion qui nous submerge alors que s'ouvrent devant vous les portes du casino de Paris est la plus puissante que vous ayez connue. Elle vous éparpille aux quatre vents. Une ivresse aussi soudaine qu'incomparable vous arrache au tapis rouge, vous soulève de terre. Le centre du monde. Invisible jusque-là, s'aligne avec le numéro 16 de la rue de Clichy. Vous aimez tout et sur le champ. La façon dont la lumière brûle dans le cristal des lustres immenses, le froissonnement solennel des grands rideaux pourpres et les grooms empressés chargés ras la gueule de roses rouges. La rumeur du tout Paris, son parfum de scandale, le flot des aigrettes et des rivières de diamants. Autour de vous, on se bouscule, on s'embrasse. Mais vous rêvez déjà de poudre, de riz et de trucs en plume. Si c'est une gamine hésitante qui voit briller dans l'échancrure d'une robe enlamée les fameuses gambettes de Miss Tinguette, c'est une femme bien décidée qui pénètre dans les coulisses où l'entraîne Maurice, alors fou amoureux d'une déesse cubaine surnommée Lily. Dans vos yeux, les velours mauves qui flottaient avec une candeur évidente ont soudain des reflets meurtriers. Ce sont deux étendards. Ils convoitent un horizon qui vous semble promis. À vous seul, jusqu'ici, vous ne songiez qu'à vous séparer de votre ombre. Désormais, vous savez ce que vous voulez. Voilà qui change. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Donc, les extraits de Passage des Mélancolies de Alain Emery que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.